Europe 1, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, 54e jour de confinement. Demain, c'est la libération. Et pour cette 8e balade avec le téléphone, je vais appeler les animateurs d'Europe 1 qui sont restés cloîtrés à leur domicile pendant ces deux mois historiques. Mathieu Béliard, qui a animé la matinale d'Europe 1 depuis son garage. Nicolas Canteloup, Mélanie Gomez, notre spécialiste santé. Mathieu Noël, Anne Roumanoff, Christophe Ondelat, Isabelle Morizet, Olivier Delacroix, Émilie Mazoyer, Laurent Mariotte ou Lionel Rousseau, l'animateur d'Europe 1 Sport. C'est surtout pour lui que je me fais du souci. Comment a-t-il survécu dans un monde sans football et sans résultats sportifs? Et nous serons accompagnés comme chaque semaine par des chansons qui parlent du Covid, du confinement ou du déconfinement, parfois sans le savoir. Allez, c'est parti.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très forts. Cela signifie que les regroupements extérieurs ou amicaux ne sont plus permis.
Confiné, je sais pas comment je vais continuer. Confiné, plus de tomates, plus de ciné.
Allô, Christophe Ondelat.
Ding, 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 bonjour.
Bonjour, Christophe. Alors, vous nous racontez des histoires tous les jours, hein, de 14h à 15h, y compris depuis ces deux mois de confinement, mais où êtes-vous ?
Je suis chez moi, je suis à Bayonne, donc, dans ma maison, et c'est de là que je travaille tous les jours.
Comment avez-vous vécu cette épreuve ?
Je ne vais pas me plaindre. J'ai la chance d'avoir une maison, d'avoir un jardin, et même maintenant, depuis quelques jours, une piscine en état de fonctionnement. Donc, je ne suis certainement pas la personne la plus à plaindre. Et puis, quelque part, pour des bougres comme moi, le confinement n'est pas une épreuve, en vérité. Le fait d'être enfermé chez soi, je ne suis pas seul, donc je ne suis pas malheureux. Et donc, je n'ai pas souffert, honnêtement, je n'ai pas souffert. Non.
Vous avez quand même quelques mauvais souvenirs. Allez, racontez-nous le pire.
Ah, j'ai un mauvais souvenir, mais je l'ai évoqué sur... Enfin, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis le début du confinement, mais je l'ai évoqué sur Twitter, j'ai pris une volée de bois vert, donc j'hésite un peu. Mais je suis voisin d'une caserne de l'armée française, le bataillon du 1er régiment d'infanterie parachutiste de marine, bataillon des forces spéciales françaises, donc quelque chose de très respectable, mais il tue l'OTAN en tirant. Et donc, c'est le seul inconvénient.
Il tire avec quelle arme en plus ?
Ah ben, malheureusement, s'il se contentait d'un 9 mm, ça m'irait, mais il tire au M16. Et dans une ville silencieuse, ça provoque un écho absolument incroyable. Donc, c'est le seul petit agacement de mon confinement, mais que les choses soient bien claires, que les militaires ne me tombent pas dessus. Je comprends l'utilité des forces spéciales par ailleurs, mais c'est vrai que cette manière de se détendre pendant le confinement est un peu particulière.
Peut-être qu'il s'entraînait.
Il s'entraîne, oui, si ça peut rassurer les Français, les forces spéciales s'entraînent.
Et vos bons souvenirs, alors ce sera quoi de ce confinement ?
Bah, je sais pas, moi je trouve que ce qui est très intéressant pour tous les gens qui ont vécu ça en couple par exemple, c'est intéressant de vérifier qu'on est capable de se supporter pendant deux mois, voilà. Donc ça, c'est le bilan est très, très positif là-dessus. Pour les gens qui ont... voilà, moi bon, j'ai pu travailler, pas au même rythme. J'ai une large divergence avec tous les contemplatifs et les admirateurs du télétravail. Je ne crois pas que le télétravail soit aussi efficace que le travail au bureau. Et je ne suis pas arrivé à bosser autant et aussi bien à la maison que je ne bosse au bureau à Paris quand j'y suis. Donc, si je veux être vraiment efficace, je suis plus efficace au bureau. Je le dis très franchement à mes employeurs.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune animateur qui se confinerait chez lui pour la première fois et serait obligé de faire son émission de chez lui ?
Bon, je pense que pour les gens de radio, c'est assez simple parce qu'en fait, l'auditeur est une abstraction. On parle toujours à quelqu'un qu'on ne voit pas et qu'on imagine, en fait. Hein. C'est une sorte de réflexe qu'on acquiert dans notre métier de parler à des gens qu'on imagine. Alors, en fait, qu'on leur parle dans un studio ou depuis un studio artisanal comme le mien, monté dans une des chambres de ma maison, l'abstraction reste. Et donc, le jeune animateur, ça a toujours du mal, enfin, le débutant a toujours du mal à imaginer l'auditeur. Je pense qu'il faut des années pour ça, pour qu'il soit bien évident qu'on parle vraiment à des gens, mais qu'on ne les voit pas. Mais quand on est un vieux bougre comme moi, on sait ça depuis longtemps, et donc le métier nous sert de béquille, et le savoir nous sert de béquille. Là, en l'occurrence, c'est pas plus compliqué d'imaginer son auditeur dans la piole de sa baraque que dans un studio professionnel à Paris. Mais malgré tout, hein, moi qui aime la radio, j'en profite pour glisser ça au passage, moi j'aime le son, le bon son, le beau son. Je n'arrive pas ici à avoir un aussi bon son que celui que j'ai en studio à Paris. J'ai un équipement d'enregistrement avec un très bon micro, etc. J'ai beau avoir mis des matelas un peu autour, verticaux, pour essayer d'amortir. Moi, je n'aime pas le son amateur, donc j'essaie de faire de mon mieux, mais il me tarde de recommencer à enregistrer mes histoires dans des conditions professionnelles, ça je le dis.
Si vous aviez fait de la résistance, vous auriez engueulé tout le monde pendant la guerre, sous prétexte que vous n'aviez pas un bon son.
Ah, je crois que le confinement a été une occasion de s'interroger sur le comportement des gens dans les situations paroxystiques, comme ça, que sont les grandes crises. Alors on est loin d'une guerre, mais on est dans une situation paroxystique. Et on a vu les gens, on a vu les obéissants, les désobéissants, voilà.
On a vu surtout à quel point on obéit quand même assez facilement. Hein. On est arrivé à mettre tout...
On s'en veut un peu. J'aurais voulu être moins obéissant. Par nature, je ne suis pas obéissant, donc j'aurais voulu être moins obéissant, mais le discours est bien tenu qui nous amène à être obéissant. Ouais.
Oui, parce qu'on vous dit que vous risquez de mettre en péril la santé des autres et la vôtre, autres, ouais. Forcément.
L'argument, c'est les autres. La mienne, je n'autorise pas grand monde à me donner des ordres concernant ma propre santé, mais les autres, j'entends bien, et c'est un argument qui est assez payant, qui marche et qui a fait se mettre au pas des tas de gens plutôt indépendants et libres comme moi qui n'aiment pas trop obéir aux ordres. Et je vois bien que le déconfinement va être un moment où on va continuer de nous donner des ordres comme ça. Je suis très... j'espère que viendra le moment où on fera marche arrière sur toutes les obéissances et tous les renoncements que nous avons eus à notre liberté. J'espère que nous ne perdrons pas dans cette affaire une partie de notre liberté que nous aurions appris à perdre pendant le confinement.
Au fond, l'erreur des dictateurs, ça a été, dès l'instant où ils prenaient le pouvoir, de mettre des militaires à la télévision. Il suffit de mettre des médecins et tout le monde obéit.
C'est une bonne réflexion. De la même manière, j'ai un profond respect pour les médecins, mais je n'aime pas que les médecins prennent le pouvoir, non plus. J'adore les médecins, et d'ailleurs, je suis un malade qui obéit aux médecins, qui croit aux médecins. Je ne conteste pas le médecin. Quand il m'arrive quelque chose, je fais ce que le médecin... Je lui fais confiance. J'ai confiance dans les médecins. Mais quand les médecins se mettent à faire de la politique, j'ai toujours une petite lumière qui clignote. C'est pourvu que ça ne dure pas.
Et pourvu que vous reveniez donc bientôt dans les locaux d'Europe 1, dans le studio, avec le bon son, ce sera quand ?
Je ne sais pas encore. Hein. Nous rentrons tous progressivement. Donc moi, je ne rentre pas tout de suite, probablement pas avant début juin. Toujours dans cette idée de ne pas faire cohabiter trop de personnes dans nos locaux. Donc, ceux qui peuvent rester en télétravail, comme on dit, c'est-à-dire travailler à distance sans amener leur gros doigt, leur grosse bouche et leur virus dans les locaux, sont priés de rester chez eux. Moi, j'ai rien contre. De la même manière que je pourrais rentrer, en vérité, je n'ai rien contre le fait de rester ici. C'est le printemps. Il faut quand même reconnaître que les conditions sont plutôt pas mal. Il fait très beau. C'est presque l'été actuellement sur la côte basque. Donc je ne souffre pas de rester ici. Mais s'il faut rentrer, je rentre. Je suis un type très pragmatique.
À bientôt, Christophe.
Salut, Frédéric.
J'ai du gel hydroalcoolique. Au cas où j'en ai pris 10 litres. Je vois le monde à travers une vitre. Je suis en confinement.
J'appelle tout de suite Mathieu Belliard, le matinalier d'Europe 1 qui a fait son journal chaque matin en direct du garage de sa maison en Normandie. Allô Mathieu ?
Bonjour Frédéric.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Votre journal tous les matins, ça durait 3h30, mais il restait beaucoup d'heures à peupler. Comment ça s'est passé ?
Là on est ancré à la maison, on se prépare à ressortir avec un peu la peur du monde à l'extérieur. Non, pour moi ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé parce que les enfants à la maison, parce que je vous passe le grand jardin, etc. Et c'était du temps pour soi, assez agréable dans des conditions pour bosser qui sont quand même idéales.
Quel est votre meilleur souvenir ?
La première parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait d'ailleurs. À tout moment, ça pouvait couper. On ne savait pas si ça marcherait. Et au final, on ne savait pas. C'est à la fin de l'émission que j'ai compris que on remet ça demain, d'accord. Et en fait, ça va durer, d'accord. Et c'était assez irréel la première fois de faire ça de chez moi, quoi, d'être à l'antenne avec des invités parfois prestigieux, des auditeurs. C'était assez rigolo.
Habituellement, vous mettez quoi, une heure pour venir à Europe 1 pour l'émission. Là, vous êtes resté chez vous pendant 2 mois. C'est une toute autre façon de vivre.
Non, mais le télétravail, je pense que c'est valable pas que pour la radio, hein, mais c'est un gain de temps monumental. Alors évidemment, il y a toujours le travers qui est de travailler plus. On a tendance à tout le temps être en train de travailler, tout le temps être connecté. Le travail est entré dans la maison. Mais à part ça, moi, j'ai gagné 2 heures de sommeil au moins, puisqu'il y a le temps de trajet. Il y a 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Et puis, il y a beaucoup de temps qui peut être un peu considéré comme du temps perdu au boulot. Alors que là, la nuit, je suis tout seul dans mon garage avec mon ordinateur, mes 2 écrans, mon micro. Il n'y a personne qui vient m'embêter. Ça passe assez vite, finalement.
Vos enfants, vous avez dû leur faire la classe ?
Oui, c'était assez tranquille chez nous, il faut être très honnête. C'était assez calme là-dessus, mais ça a été, ils sont assez jeunes. Et c'était surtout beaucoup de temps à l'extérieur. Je sais que c'est terrible ce que je dis pour les Parisiens, mais il a fait un temps quand même magnifique, un bon bout du confinement, et ça a facilité les choses.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commencerait à se confiner aujourd'hui ? Maintenant que vous avez l'expérience.
Alors, on a beaucoup parlé, moi, très souvent, moi le premier, hein, de donner une perspective, d'avoir une date. On a parlé du 15 avril, puis le 11 mai, le fameux 11 mai. Même avant le 11 mai, maintenant, on s'est mis à chercher le 7 jeudi dernier, quand on nous annoncerait la carte des départements. Et on a beaucoup dit que c'était important d'avoir une perspective, d'avoir une date. Au final, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut vivre le truc vraiment au jour le jour, occuper ses journées, faire un peu de sport, en profiter pour lire les livres qu'on a achetés, qu'on n'a jamais eu le temps de lire, regarder des films, hein, passer du temps à mater des séries sur Netflix, rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Je dirais qu'il faut vivre le truc au jour le jour. Et puis, il y a des jours où on a envie de sortir, où c'est agaçant. Puis, d'autres jours où c'est agréable d'avoir du temps pour soi.
Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus drôle ?
Incontestablement, le petit dernier qui entre pendant l'interview de Jean-Yves Le Drian. Il a été très sage, il a compris tout de suite. J'ai de la chance, moi, en matinale, avant d'être interrompu par les enfants, il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui se réveille, qui sorte de la maison, qui entre dans le garage à 6h du matin, c'est peu probable. J'ai eu juste ce moment-là, à 8h15 un matin, le petit dernier qui avait compris que la veille, alors que ça faisait 2-3 semaines qu'on était en confinement, qu'en fait je ne partais plus la nuit. Et il est venu vérifier par lui-même. Il a été très sage. Je lui ai expliqué que quand la lumière rouge était allumée sur le micro, il fallait surtout être très silencieux. Il est resté 10 minutes et puis il est reparti au petit-déj.
Est-ce qu'il vous est arrivé de souffrir d'anxiété, comme un quart des Français, paraît-il ?
D'anxiété, pas vraiment. Il y a peut-être eu, au bout d'une semaine, 10 jours de confinement, un moment où on a eu le sentiment que c'était vraiment là, quoi. Qu'il fallait faire attention quand on sortait. Je ne sais pas, c'était très concret pendant une période, très menaçant. Moi, je ne suis pas du tout hypochondriaque. Je n'ai pas l'expression inverse d'hypochondriaque, mais j'ai tendance à me soigner une fois que je suis guéri. Mais là, parce qu'il se trouve que j'étais allé faire une course, de voir les masques commencer à sortir, de voir le système mis en place dans les supermarchés pour qu'il y ait des caddies désinfectés, de voir le panneau interdit aux enfants sauf famille monoparentale. Je me suis dit, waouh, c'est un peu flippant, on a changé de société. Et puis, petit à petit, ça s'est tassé. Et en même temps, maintenant, on se dit, tiens, il va falloir s'habituer, je sais pas, 2 mois par an à porter un masque dans les transports. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être installé, peut-être que ça va disparaître, hein, j'en sais rien. Mais y a des choses qui seront un peu différentes dans la société, des libertés qu'on accepte de laisser de côté parce qu'il y a une menace un peu différente, je sais pas. Mais ce moment-là était assez anxiogène, je trouve. Un moment où on avait l'impression que dans nos amis, à chaque fois qu'on contactait quelqu'un, ah ouais, à lui, là, ah ok, d'accord. Et on apprenait tous les jours quelqu'un dans notre entourage qui n'avait pas forcément grave. Hein. Mais bon, c'était une dizaine de jours un peu stressant. Pour le reste, il faut un peu de patience, c'est tout.
Demain, c'est le 11 mai, le déconfinement. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ?
Ah bah ça change tout, puisque je reviens à Europe 1 dans les locaux, dans les murs. Alors, on va changer de studio pour avoir un studio plus grand, pour respecter la distanciation sociale, pour reprendre l'expression consacrée. Ça va être une grosse différence, il va falloir remettre le réveil 2 heures plus tôt, il va falloir retravailler comme avant et en même temps pas comme avant. Je suis très heureux de revoir les quelques personnes qui sont restées dans les locaux tout ce temps-là et d'autres de mes camarades qui étaient en télétravail.
Ouais, c'était spécial, hein, des bureaux déserts, la grande terrasse ensoleillée mais vide.
Complètement vide. Il n'y a pas Marc Messier, le rédacteur chef de La Matinale, en train de faire une sieste ou de fumer des clopes ?
Peut-être, mais on n'a pas les mêmes horaires.
Ah, lui, déjà, souvent, il reste très tard. Non, blague à part. Ça va être très différent de faire cette émission qui va être en partie en télétravail, puisque les chroniqueurs vont rester chez eux. Les invités ne seront pas en studio. On est comme le veut l'expression consacrée maintenant, sur un déconfinement progressif, mais de revenir dans les locaux. Après, ça commence à démanger aussi. Il faut. Non, mais les relations humaines sur WhatsApp, ça a ses limites quand même.
Eh bien, bon retour, Mathieu, et j'espère vous revoir vite.
À très bientôt.
Émilie Mazoyer, c'est musique tous les jours de 20h à 22h, mais le reste du temps, comment l'a-t-elle passé ? Allô, Émilie ?
Allô, Frédéric, salut !
Ce confinement ne vous a pas paru trop long ?
Non, et je vais même vous dire, pour moi, il n'est pas terminé, puisque je pense que je vais encore faire mon émission depuis chez moi tout le mois de mai, tellement je m'y trouve bien.
C'est vrai ?
Non, j'ai adoré.
Je crois même que vous aviez commencé plus tôt que les autres.
Oui, j'avais commencé le lundi soir. On sent quand même la nana qui est très motivée pour sortir de chez elle pour aller au travail. J'avais commencé la veille. Et là, je pense que je vais prolonger tout le mois de mai. Mais en fait, moi, c'est la première fois que je fais de la radio depuis chez moi. J'ai toujours fait de la radio en studio depuis 20 ans. Et en fait, j'ai adoré être dans mon salon, retrouver le plaisir de fumer des clopes en faisant de l'antenne.
Je me souviens, j'ai connu ça aussi.
Et ben quand c'est à la maison, on peut, personne ne dit rien, il ne faut pas que ça s'entende trop, j'imagine, mais j'évite de faire des bruits de briquet en direct, mais c'est quand même super confortable. Et puis ça m'a apporté un truc. Alors ça, c'est un problème que vous n'avez pas, vous Frédéric, parce que vous êtes un intervieweur chevronné, mais moi, qui suis un peu midinette, un peu fan parfois des artistes que j'interviewe, le fait là de ne pas les avoir en face de moi, mais de les avoir par téléphone ou par liaison interposée, ça se passe mieux pour moi. Je vous donne un exemple, la semaine dernière, j'ai eu Benjamin Biolay, mais que j'adore quand il est en face de moi, en studio, je perds tous mes moyens, je glousse. Et là, comme j'étais chez moi et qu'il n'était pas en face de moi, je pense que l'interview était un peu meilleure.
Sans doute, mais vous avez des enfants.
Oui.
Ils n'intervenaient pas pendant l'émission ?
Alors ma fille, est arrivée, elle est toute petite, hein, elle a 5 ans, et donc un soir, elle n'avait pas compris que j'étais en train de travailler, et elle est arrivée, elle a commencé à me parler, moi j'étais en train j'étais en direct, quoi, et donc je n'ai pas dramatisé la chose, j'ai expliqué, et du coup elle a dit bonsoir à tous les auditeurs, et elle ne s'est pas endormie d'ailleurs, et à 22h elle m'attendait, et elle m'a demandé si elle était célèbre, alors je lui ai dit que oui un petit peu quand même.
C'est marrant comme la célébrité, c'est devenu une valeur pour les enfants. Hein.
C'est étonnant qu'elle me pose cette question. Est-ce que je suis célèbre ? Elle ne m'a pas demandé si elle avait une jolie voix. Elle m'a demandé si elle était célèbre. Alors, je lui ai dit oui. Hein. C'est tout
oui,
simple.
Vous avez bien fait. Vous leur faites la classe quand ils redeviennent des enfants comme les autres ?
Oui. Alors, elle est en grande section de maternelle, Maya. C'est le prénom de ma fille. On a des instructions qui nous arrivent par mail et puis des petites vidéos de son instituteur. Et moi, j'essaye. C'est-à-dire que normalement, la grande section de maternelle, c'est le moment où ils apprennent à écrire, à tracer les lettres pour être prêts au CP. Et donc, il faut que j'abandonne mon écriture de chat et que je refasse, vous savez, les lettres bien comme il faut et pas écrire en lettres bâton. Donc, moi-même, je m'y remets. Donc, ça ne me fait pas de mal.
Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus drôle pendant ces 2 mois ?
Il m'est arrivé un truc assez gênant, en fait. À partir du moment où on a porté des masques, moi, j'ai réussi à m'en procurer un en tissu, mais qui couvrait vraiment une partie de mon visage. Et donc, je suis partie faire les courses. Et il y a un monsieur qui s'est approché de moi et qui a commencé à me parler. Alors bon, réflexe, j'ai reculé d'un pas. Et je me suis dit, mince, ça doit être quelqu'un qui écoute l'émission. Il faut quand même que je discute. Moi, je connaissais vraiment pas ce monsieur. Et lui, il me parlait, mais comme si on s'était quitté. Enfin, vous voyez, comme s'il me connaissait, quoi. Et j'étais hyper embêtée. Je voyais le truc gonfler. Puis dans ma tête, je me disais, non, mais c'est sûrement un auditeur. Il faut que je sois sympa et tout. Et en fait, pas du tout. Il m'avait pris pour sa fille. Et il était très vieux et très fatigué. Et du coup, voilà, ça s'est terminé de manière un tout petit peu gênante. Et puis, moi, ma grosse tête a dégonflé d'un coup. Les auditeurs avec un masque ne me reconnaissent pas. Il faut que je m'y fasse.
C'est ce qu'il faut que vous expliquiez à votre fille. Malheureusement, c'est trop tard pour être célèbre. Si tout le monde est voué maintenant à sortir avec un masque, ça ne paiera plus.
C'est fini ce temps-là. Mais non, mais je n'ai pas passé un confinement difficile. J'avoue que si j'avais su, il y a quelques années, au moment de choisir l'endroit où j'habite, probablement je serais un petit peu plus à l'écart de Paris et avec un jardin. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'habite dans le 13e arrondissement de Paris, qui est un quartier vraiment calme. Et il est resté calme pendant le confinement.
Vous n'avez pas souffert d'anxiété ?
Non. Enfin, je vous dis ça. Et en même temps, je ne reviens pas à la radio lundi. Alors que normalement, je pourrais. Donc, je pense qu'il y a peut-être une petite angoisse quand même. Mais je ne vais pas vous l'avouer, vous pensez bien.
Non, je comprends bien. Merci Émilie Mazoyer et bonne émission de chez vous.
Merci beaucoup Frédéric.
Et voici une chanson sortie il y a quelques jours, le 1er mai exactement. Elle a été enregistrée entièrement à la maison, mais à distance, par les 11 musiciens de Collectif 13, confinés chacun chez soi aux quatre coins du pays.
Le Collectif 13 est toujours en mission. Aujourd'hui, on vient vous parler du bon côté de la situation.
On est confinés.
Deux accords de reggae, la petite chanson. Il faut l'attraper au vol, elle est là, attention.
C'est sur les amis qu'on a du temps. On va pouvoir faire les devoirs et s'occuper de nos enfants. Et là, on va voir s'ils aiment vraiment leurs parents, s'ils en ont marre de papy, de papa, de maman. On va voir aussi que les autres nous manquent, qu'on ait peu de choses des amis face à ce virus à la menthe. On est tous abasourdis, on est tous cachés sous la tente. Mais après cette folie, va falloir qu'on se réinvente.
C'est le bon côté de la situation. Il faut l'attraper au vol, il est là, attention,
attention.
C'est le bon côté de la situation. Elle est là, la décontamination.
Plus besoin de culpabiliser quand je reste à la maison. Expliquer à mes enfants que papa écrit des chansons. Plus besoin de justifier mes périodes d'inactivité. Qu'il faut du temps pour la créativité. Je vais pouvoir glander toute la journée en djellaba. Vu que le président m'a dit qu'il fallait que je reste chez moi, verrouillé par un virus qu'on n'a pas vu arriver. On va chanter pour mieux vous contaminer. On est le collectif 13, diffuseur de bonne humeur. Même quand les temps font peur, on vient réchauffer vos cœurs comme un antidépresseur pour te rompre en couleur. Place au soleil pour apaiser
c'est
vos douleurs.
Bon, c'est le bon côté de la situation.
De la situation.
Il faut l'attraper au vol, il est là. Attention.
Il est là.
Attention. C'est le bon côté.
C'est le bon côté
de la situation.
De la situation.
Elle est là. Elle est là.
Oh GG.
J'ai déjà fait des haies, la pelouse est nickel, mis le salon jardin, le barbecue et les nains, nettoyer la maison, tout mis dans les cartons, fait un tas de saloperies qui ira en déchetterie,
j'ai fait toute
la vaisselle, la cuisine est nickel, aujourd'hui c'est rougaille, les enfants se régalent, comme Canal est gratuit, je fais un plein de séries, il me reste quelques semaines avant d'être Walking Dead.
C'est con, 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 c'est qu'on est confiné, pourvu con, 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 qu'on soit pas tous contaminés, c'est pour ça qu'on, con, va prendre le bon côté. Parce qu'on est con, 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 on est tous concernés. On sera moins con, 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 moins con les confinés. Pourvu qu'on, con, con, qu'on soit pas tous contaminés. C'est pour ça qu'on, qu'on va prendre le bon côté. Parce qu'on est con, 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 on est tous concernés.
C'est le bon côté
de la situation.
De la situation.
Il faut l'attraper au vol.
C'est le bon côté
de la situation.
De la situation.
Elle est là, la décontamination.
Les copains, les copines, la vérité vous manquez. Et quand je pense, j'ai le temps à tout ce que l'on sait pas faire. Alors à toutes les prochaines fois, tout ce que l'on va rattraper. Et cette fois, c'est promis. J'irai pas me coucher, mais une chance sera la belle. Prochain disque est important à dire à nos petits. Et même à des plus grands, que c'est pas l'argent, c'est pas le profit, c'est la santé qui est importante. Et que l'ennui, ça aide bien à retrouver
c'est
les vivants.
Bon côté.
De la situation,
de la situation,
de la attention,
c'est le bon côté.
De la situation,
de la situation.
C'était le bon côté, collectif 13. Allô, Nicolas Canteloup ?
Oui, bonjour Frédéric.
Comment allez-vous ?
Oui, ah, on se vous voit, oui, pardon, oui, oui, je vais très bien, vous allez bien ?
Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus drôle pendant ces deux mois de confinement ?
De plus drôle, punaise, j'aurais dû préparer avant, j'ai même pas préparé l'interview, ça se fait pas, ça. Moi je prépare tout en général. Non, non, c'est pas drôle, c'est une douceur de vivre, c'est terrible de dire ça, j'ai presque honte, mais... Bon, c'est vrai qu'on est très inégaux par rapport au confinement. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc c'est des plaisirs simples de découvrir la proximité d'un jardin, le plaisir d'être dehors, de redécouvrir ses enfants, de prendre du temps. Mais de plus drôle, si, mais bien sûr que je sais ce qui est de plus drôle. Le plus drôle, c'est d'avoir changé mon univers de travail. Parce que vous savez, je suis non seulement un homme de radio, mais aussi un homme de télé, Frédéric.
Et oui.
Et oui. Et donc, c'est de faire la télé. Je ne soupçonnais pas que j'arriverais à faire cette escroquerie-là, mais faire la télé depuis la maison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on pouvait, pour les raisons sanitaires que vous connaissez, on ne pouvait plus faire l'émission à TF1. Nous, on avait hâte de reprendre, parce qu'on était frustrés. Il y avait tellement de choses à dire avec la chloroquine, les masques, etc. Donc, on était un petit peu... Ça nous démangeait, les stylos. Donc, avec mes camarades auteurs. Et donc, il fallait qu'on tourne, mais on ne pouvait plus revenir à TF1 puisque les portes étaient fermées. Donc, on a essayé d'être inventif. Et puis, à un moment donné, mon producteur, Jean-Marc Dumonté, m'a dit « Est-ce qu'on ne peut pas le faire chez toi, tu crois ?» Et puis, je me disais « Chez moi. » Et puis, en fait, j'avais un grenier désaffecté. En fait, un grenier à foin pour le fourrage pour les chevaux. On a tout viré, on a nettoyé les crottes de pigeon en 24 heures. Et on a configuré un studio digne d'Hollywood en 24 heures. Enfin, digne d'Hollywood, non, c'est un plancher, du béton, une des tuiles. C'est pas isolé, on skye le début, on skye et maintenant ça va mieux.
Ne le dites pas trop, ils vont augmenter votre taxe foncière.
Oui, ça c'est pas faux, mais il y a la production qui s'inquiète parce qu'ils se disent on faisait une émission à 20 personnes à TF1, maintenant on se retrouve à 3 et on fait une émission qui fait plus d'audience. Donc c'est un peu inquiétant pour l'emploi demain. Voilà.
Non, rassurez-vous, c'est juste parce qu'il y avait plus de gens devant leur télévision puisqu'ils n'avaient pas le droit de sortir.
Ah, moi je crois que c'est à cause de mon talent. Non, vous croyez que c'est à cause de ça?
Oh, bon, ben, mais non.
Bon.
Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même au cours de ces deux mois?
Alors, c'est rare, mais là, vous posez une vraie bonne question. C'est vrai, parce que je trouve qu'il y a, bon, il y a une conscience collective, mais je trouve qu'il y a un rapport à l'intimité. Ce virus nous donne une... Il y a un effet miroir, quoi, une espèce d'introspection un petit peu, j'allais dire... Alors, je ne suis pas philosophe, enfin, je n'y connais rien en philosophie, mais j'ai l'impression, que, enfin, je perçois à peu près ce que ça veut dire, en philosophie, mais j'ai l'impression qu'on se dit pourquoi on court, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est un peu l'éloge de la lenteur. On a du temps. On a du temps devant nous. On reprend conscience de la proximité. On ne rêve pas de Maldives quand on est confiné. On se déjà d'avoir un jardin de sortie, on est content. On voit des fleurs, des arbres, des oiseaux. On prend le temps de... Oui, l'éloge de la lenteur, parce qu'on ne se déplace plus avec une voiture, on se déplace juste avec nos jambes, avec un vélo. Enfin, on revient à des choses très, très, très naturelles. Et je me dis, on n'est peut-être pas plus malheureux en allant moins vite. Voilà. Et j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas le seul à me le dire.
Peut-être qu'au fond, nos aïeux, au 19e siècle, vivaient aussi bien que nous.
Exactement, exactement. Mais enfin, oui, j'ai l'impression... Alors, est-ce que ça... Bon, la grande question, tout le monde se dit, est-ce que les histoires ne sera plus comme avant après? Bon, j'ai l'impression qu'on va recourir un petit peu pareil, mais il y aura quand même une petite musique qui nous dira, tiens, des fois, de ralentir un peu, c'est pas si mal, quoi, voilà.
Et ce petit virus, vous l'imaginez comment, vous? Quand vous en parlez, vous le voyez?
Le virus, je le vois comme... Pour nous, c'est, avec mes camarades auteurs, ce qui est compliqué, c'est la redondance, quoi. Parce qu'en fait, notre matière pour travailler, c'est l'actu. Bon, l'actu est souvent en sombre, mais alors, bon, ça, on est habitué, ça, c'est normal. Mais par contre, ce qui est terrible pour un auteur, c'est quand elle est répétitive. Quand c'est les gilets jaunes de 2 week-ends, 3 week-ends, 4 week-ends, on trouve des vannes sur les 4 premiers week-ends, sur le 26e, il faut être inventif. Donc là, il nous donne une actualité très répétitive, donc il faut être très inventif. Heureusement, j'ai des auteurs qui sont très performants, mais c'est un peu compliqué. Par contre, l'élément assez sympa, c'est que notre matière de travail, comme je vous dis, c'est l'actu, et avec la multitude de chaînes, souvent, il n'y a qu'une actu, il n'y en a qu'une. Donc elle est très partagée. Quand on parle, quand on parle d'un élément référent, les gens l'ont tous. Hein. C'est le coronavirus. Il n'y a que cette actu-là. Donc dès qu'on en parle, je pense que ça résonne, quoi. Les gens ont besoin un peu de légèreté par rapport à cette actu-là.
Qu'est-ce que vous avez hâte de faire à partir de demain, 11 mai?
Alors, à partir de demain 11 mai, il me tarde de... Enfin, c'est très, très, très égoïste, hein, mais en fait, vous savez, j'ai un sport que j'aime bien, c'est le cheval, l'équitation, et on est obligé de sortir autant les voitures, on n'a pas le droit de sortir, autant les chevaux, on a encore le droit de sortir, parce qu'ils ne peuvent pas, les animaux, rester enfermés. Donc, il y a des autorisations préfectorales pour sortir, mais dans un périmètre très précis, dans une carrière qui est assez délimitée, assez petite, enfin petite, ça va, mais assez petite. Donc, par contre, les forêts sont fermées. Il y a des barrières, les forêts domaniales sont fermées. Donc, il me tarde de regalloper le matin un peu tôt, d'aller voir mes sangliers, mes chevreuils, enfin les miens, c'est pas les miens, c'est la forêt domaniale. Mais d'aller les retrouver parce qu'il me manque un peu, vous voyez, au petit matin, l'arroser, un petit galop, c'est sympa. Voilà.
Vous allez faire ça avec un masque? Parce que je vois des gens souvent dans leur voiture tout seul avec un masque.
Non. Alors des fois, comme c'est à cheval, je me déguise en Zorro, j'ai un masque, mais pour faire rire mes enfants. Mais non, je n'aurai pas de masque. Non, je ferai comme ça, l'air pur à plein poumon. Voilà.
Chouette,
ouais.
Merci Nicolas, j'espère vous revoir vite.
Mais ça a été super court, Frédéric, c'est quoi cette histoire? On dit qu'on a du temps, le confinement, vous faites une interview de 3 minutes et demie, c'est quoi?
Mais vous savez bien ce que c'est, on croit qu'on a du temps pendant le confinement, mais en fait on a le temps de rien.
Ouais, ben voilà, bon ben alors, on prendra le temps une autre fois, d'accord Frédéric?
Je vous embrasse.
Oui, moi aussi, salut Frédéric. Je vous embrasse, je vous vois, au revoir. One, keep your space. Wash your hands. Step 3. Don't touch your face. Step 4. Then do that dance. 1. Keep your space. Step 2. Wash your hands. Step 3. Don't touch your face. Step 4. Then do that dance. Coronavirus.
Anne Roumanoff a animé de chez elle son émission Ça fait du bien tous les jours de 11h à midi. Mais le reste du temps, que faisait-elle? Allô, Anne?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment ça s'est passé?
Ah bah, c'était une expérience un peu de dingue, en fait, parce que j'ai créé une association. Je n'avais jamais créé d'association de ma vie. Et j'ai bossé 15 heures par jour pendant tout ce temps, en fait.
Ah oui, c'est, en fait, c'est pareil que c'est pour ça qu'on crée des associations. Souvent, c'est pour s'occuper.
Non, je ne l'ai pas fait pour m'occuper, mais ça s'est comme imposé à moi. Au début, on était 5 et maintenant, on est 50. Et voilà, c'était une expérience assez incroyable qui continue d'ailleurs.
Alors, les associations, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le choix. Vous avez choisi quel domaine ?
Je n'ai pas choisi vraiment, ça s'est imposé à moi. Ça s'appelle Solidarité avec les soignants. Et en fait, l'association s'est créée pour acheter des équipements de protection aux soignants et leur expédier. Et ce qu'on a fait, on a aidé 200 établissements de santé.
Ah oui, vous êtes allé au plus urgent, quoi.
On a été au plus urgent, oui. Et puis après, ça s'est étendu sur des livraisons de repas, de petits déjeuners, des collations, des bonbons, des chocolats, des fauteuils, des micro-ondes, des cafetières, tout ça pour les hôpitaux. Et, mais on a dépensé notre argent uniquement pour les équipements de protection, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture. Ça a été fait grâce à des partenaires comme J'aime, comme les jus de fruits innocents. Enfin, il y a plein de gens qui nous ont aidés.
Alors, tous ces soignants qui défilaient, qui manifestaient il y a encore peu dans la rue, un peu dans l'indifférence, aujourd'hui sont l'objet de toutes les tendresses, de toutes les attentions. J'espère que ça ne va pas s'arrêter net, parce que sinon, ils vont mal le vivre.
Je ne pense pas que ça va s'arrêter, parce que ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une prise de conscience, d'ailleurs, pour les soignants, mais aussi pour les enseignants, parce que moi, j'ai eu au téléphone beaucoup de parents qui se sont retrouvés à faire la classe à leurs enfants et qui ne pensaient pas que c'était si difficile. Et donc, je pense que ces deux métiers qui n'étaient pas considérés, ça va changer dans l'échelle des valeurs.
Vous avez fait vos courses, normalement. Vous avez continué de sortir ou vous êtes resté chez vous ?
Moi, je faisais ce qui était autorisé. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un moment où je me suis un peu terrée chez moi. Et puis, après, oui, je sortais une heure par jour, comme c'est permis, faire mes courses avec un masque. Voilà, j'ai découvert des choses. J'ai découvert le repassage, l'aspirateur.
Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus drôle ?
Je ne sais pas si s'il m'arrive des choses drôles, en fait. Je ne peux pas te dire. Ce qui a été un peu dingue avec cette association, c'est que je me suis retrouvée, j'étais obligée de donner mon téléphone à plein de gens et du coup, j'avais des appels surréalistes de gens qui avaient des masques avant, il fallait que je décide dans les 10 minutes et puis enfin, c'était curieux en fait, c'était comme un nouveau métier que j'ai fait et puis diriger 50 personnes, j'avais jamais fait en fait.
Et puis faire du trafic de masques aussi, c'était une nouveauté.
Non, c'est pas du trafic de masques, on a acheté des masques et pour les donner aux soignants, mais il y a eu vraiment des moments très prenants et très dramatiques aussi, parce que cette association, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup rigolé, mais il y avait vraiment des moments où on a tous pleuré à un moment en lisant les messages de soignants qui arrivaient en pleine nuit, des gens qui vous disent j'ai plus de gants. Enfin, il y a eu un moment où c'était très très difficile, pas pour nous hein, mais pour les soignants, ouais. Et nous, en recevant les messages, qu'on a reçu plus de 424 demandes, on a aidé plus de 250 établissements, c'était très prenant.
Il paraît que quand on aide ou qu'on fait une bonne action en général, que les autres vous en remercient, il paraît que ça donne une joie extraordinaire, supérieure à tout ce qu'on a connu.
Bah, je ne sais pas si c'est une joie extraordinaire, mais oui, je ne sais pas. Parce que c'était une goutte d'eau ce que j'ai fait dans un océan de besoins qui était absolument immense. Mais oui, quand on a reçu des photos, des remerciements, quand on sait que on a fait plaisir à des gens ou qu'on les a aidés à passer un cap à un certain moment, oui, c'est vrai que ça donne une satisfaction. Et en tout cas, ça m'a permis de ne pas sombrer dans la déprime ou dans l'angoisse. Enfin, le fait, j'ai été extrêmement occupée pendant cette période, à tel point qu'à un moment, j'ai cru que j'allais tomber. C'est-à-dire que j'ai travaillé tellement et j'étais tellement... Comme des messages arrivaient tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit, je travaillais, je sais pas, jusqu'à 2h du matin, je me réveillais à 6h. Enfin. Et il y a un moment qui a été un petit peu compliqué, parce qu'en plus, il a fallu structurer un groupe de 50 personnes. Voilà, c'était comme créer une start-up en un mois, en fait, avec des process, des responsables, recruter des gens. Enfin, tout ça, a été un peu compliqué. Quoi.
Au fond, Anne Roumanoff, vous avez trouvé le moyen, en plein confinement, de vous faire plein de nouveaux amis.
Oui, je pense que je me suis fait des amis forts. C'est comme quand on fait la guerre ensemble. Et en fait, ce qui est aussi assez incroyable dans cette histoire, c'est que les gens que j'ai rencontrés, la plupart, je les ai jamais vus. C'est-à-dire, je les ai jamais rencontrés en vrai parce qu'on fait des Zooms. Donc là, en ce moment, je fais tous les matins des conférences Zoom avec l'équipe. Alors, pas les 50 personnes, mais les chefs de pôle de l'association et tout ça. Et donc, il y a des gens que j'ai vus énormément, à qui j'ai énormément échangé au téléphone, et je les ai encore jamais vus en vrai. Quoi.
Tous les gens qui partent en mission humanitaire ont du mal à revenir ensuite à la vie normale. Vous redoutez, vous aussi, ce retour ?
Bah, je n'ai pas quitté la vie normale parce que j'ai quand même continué la radio tous les jours. J'ai, J'ai fait le ménage à un moment chez moi parce que la situation devenait trop dramatique, c'était catastrophique. Et donc je suis quand même très ancrée dans la vie normale, mais c'est vrai que cette association, c'est une belle aventure humaine, et certains des gens de l'association qui ont repris le travail, et là, ils nous disent « Oh, mais vous nous manquez !» On a créé quelque chose de... Je sais pas, c'était comme un groupe qui s'est créé dans l'urgence, et c'était quelque chose d'assez beau, en fait.
Merci, Anne Roumanoff, et eh bien, j'ai hâte de vous revoir à Europe 1.
Eh bien, moi aussi, j'ai hâte de revenir.
À bientôt.
À bientôt.
Confinement devenu problème, humain n'est pas confinement. Confinement protège humain contre corona. Plus de place dans les hôpitaux. Corps médical débordé, corps médical fatigué, corps médical va craquer.
Et Mathieu Noël, maintenant, quand il n'animait pas de chez lui l'équipée sauvage, tous les après-midi de 16h à 18h, que faisait-il? On va lui demander. Allô Mathieu?
Allô Frédéric.
Comment allez-vous?
Eh bien, ça va plutôt pas mal. Je me repose entre deux émissions confinées qui me prennent un peu de temps.
Oui, et comment avez-vous vécu cette épreuve?
Oh, alors épreuve, c'est un bien grand mot, hein, l'épreuve. Alors attention, parce que là, je vais faire mon moment pour les soigneurs, comme tout le monde. Donc l'épreuve, c'est pour ceux qui sont en première ligne. Frédéric, nous ne sommes que des saltimbanques en troisième ou quatrième ligne, et nous sommes là pour divertir un peu les gens. Non, je l'ai bien pris. Franchement, j'ai la chance d'être quand même confortablement installé. Puis au début, on s'est dit que ça allait être très chaotique de faire cette émission en ligne, parce que dans mon émission, en plus, je joue pas mal avec les sons, pas mal d'extraits sonores qu'il faut caler à la seconde près. Je m'étais dit que ça allait être un beau bordel, et puis finalement, c'est un beau bordel, mais visiblement, les gens sont contents. Donc, on continue comme ça.
Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus drôle pendant ces deux mois?
Vous voulez dire à l'antenne ou personnellement?
Non, ou dans votre vie personnelle.
Dans ma vie personnelle, écoutez...
Vous avez bien une vie personnelle.
J'ai une vie personnelle, mais qui s'est réduite à peau de chagrin, parce que là, préparer l'émission, ça prend encore plus de temps qu'à l'époque où j'étais dans les studios d'Europe 1. Bah oui. Non, il y a un truc qui me vient en tête, c'est peut-être pas dans la vie vraiment personnelle, mais c'est l'autre jour en vous écoutant, figurez-vous Frédéric, je vous écoutais, j'écoutais votre émission, je suis tombé sur un moment où vous parliez avec Nicolas Bedos, et là j'ai réalisé, j'ai eu un vertige, j'ai réalisé à quel point ma vie était déjà pourrie avant le confinement. C'est-à-dire que vous étiez là et vous étiez avec votre poteau Nicolas Bedos, votre Nico, quoi. Vous vous lamentiez sur la fin de la vie nocturne, ces folles soirées auxquelles visiblement vous participiez sans moi. Et c'est là que j'ai découvert, j'ai réalisé que ma vie était vraiment nulle avant, puisque la dernière fois que je suis sorti en boîte, c'était peut-être en 2002, voilà, à l'époque d'ailleurs où on disait encore boîte de nuit. Et voilà, j'ai pris conscience que j'étais vraiment un ermite avant même le confinement. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un je suis le deuxième Michel Drucker, si vous voulez. Je ne sors jamais la nuit.
Vous n'avez rien découvert d'autre sur vous
Sur moi-même.
Au cours de cette période
Je n'ai pas vraiment découvert, je le savais déjà, que j'étais hypochondriaque. Donc là, je vous laisse imaginer notamment les premiers jours du confinement. Ça a été très dur pour moi, puisque j'étais évidemment convaincu d'avoir attrapé le virus. J'avais tous les symptômes les uns après les autres. Et je passais mon temps sur Doctissimo à vérifier mon hypothèse. Et voilà, mon médecin m'a dit finalement que c'était juste en fait de prendre un Lexomil. Et effectivement, c'est passé assez vite avec le Lexomil. Donc ce n'était pas le Covid-19.
Donc vous faites partie du quart des Français, paraît-il, qui auraient souffert d'anxiété.
Alors effectivement, c'est pas drôle, parce qu'effectivement beaucoup de Français sont comme moi. J'ai vraiment souffert d'anxiété. J'avais l'impression de ne plus réussir à respirer, et c'était juste psychosomatique normalement. Donc
en même temps, si on n'a pas d'anxiété en pleine pandémie, alors que le gouvernement vous interdit de sortir de chez vous, que les rues sont vides et que gens qui sortent portent des masques, c'est que rien ne vous touche, hein, ce qui est une autre forme de trouble mental.
C'est vrai. Heureusement, alors, je n'ai pas ce trouble mental-là. J'ai eu peur comme tout le monde, et puis je suis hypochondriaque, et surtout. Je suis un peu honteux de l'être, c'est-à-dire que ce qui est le plus compliqué dans mon quotidien, je dirais que c'est les déplacements. J'ai un fils et je suis séparé de sa maman, donc je le ramène tous les jours. Donc dès le début du confinement, je fais des allers-retours dans la rue chaque jour. Et comme je suis hypochondriaque, je ne supporte pas l'idée de croiser quelqu'un, mais je ne supporte pas l'idée qu'il pense que je le suspecte. Donc c'est terrible, parce que je change de trottoir évidemment à chaque fois, mais je peux pas juste changer de trottoir. Je suis obligé de faire semblant d'avoir vu quelque chose de très intéressant de l'autre côté de la rue, par exemple un panneau d'information, vous savez, sur la ville de Paris, sur nos monuments. monuments et tout ça qu'on lit jamais en temps normal. Et donc à chaque fois, je dis oh, un panneau. Et hop, je traverse comme ça pour bien montrer à la personne qui arrive vers moi que ce n'est pas à cause de lui que je traverse, mais pour aller voir ce panneau très intéressant en face. Donc ça, c'est vraiment.
Ça s'appelle le tact en fait. Hein. C'est ça le tact.
Oui, c'est une forme de tact, mais poussé vraiment à l'extrême, vraiment ridicule, parce que je pense que personne n'est dupe en fait, puisque je traverse 10 fois la rue dans la même rue. Quoi.
Vous ne vous êtes jamais retrouvé en face de quelqu'un de tout aussi hypochondriaque que vous, qui au oui, moment où vous traversez la rue, justement, s'apprêtait à la traverser aussi, et parfois ça peut durer pendant assez longtemps.
Effectivement, là, il y a des politesses comme ça, mais là, dans ces cas-là, on se flaire en hypochondriaque. On se fait un clin d'œil et hop, on s'éloigne à 50 mètres, parce que là, entre nous, entre les hypochondriaques, c'est 50 mètres la distance de sécurité.
Vous redoutez un peu le retour à la vie normale, ou presque, à partir de demain ?
Écoutez, à partir de demain, je vais revenir effectivement avec mes lingettes en studio, parce qu'on ne sait pas qui aura été dans ce studio, peut-être vous d'ailleurs, et c'est trop inquiétant. Donc,
il change la bonnette du micro, je vous rassure. Hein. Moi qui suis Europe 1, j'ai ma bonnette à moi.
Ah ben je vous rassure, j'ai déjà commandé des bonnettes d'avance, et effectivement, on a tous nos bonnettes personnelles. Non, je suis content de revoir les gens quand même, je suis content de revoir les gens. On ne peut pas vivre en ermite comme ça tout le temps et un peu de lien social va nous faire du bien quand même.
Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
Ce qui me manque le plus, c'est vraiment mes potes, enfin, de pouvoir parler, pouvoir faire un apéro, pas forcément pour boire de l'alcool, mais juste pour être ensemble, parce que je suis vraiment nul, moi, sur tout ce qui est visio, apéro, tout ça. En plus, moi, tout le monde s'attend toujours à ce que je fasse des vannes, alors c'est très stressant. Et surtout que j'ai du mal à maîtriser le timing de la visioconférence, puisqu'il y a toujours un mec qui ouvre une canette de bière au dernier moment, au moment où tu commences à faire ta vanne. Donc ça foire tout. Enfin, je suis très mal à l'aise avec cette manière de communiquer, donc j'ai hâte de retrouver les gens en vrai.
Et vous n'avez pas peur de boire de l'alcool pour un hypochondriaque ?
Ah, alors non, ça... non, alors oui, c'est la limite de mon hypochondrie, si vous voulez. Non, ça, l'alcool, j'ai un peu levé le pied parce qu'en confinement, ça pouvait partir un peu en vrille. Donc non, je pas en semaine, mais le week-end, je me rattrape un petit peu. On fait des apéros, on y va quand même un petit peu.
Vous avez fait des rêves bizarres
J'ai fait des rêves bizarres. Alors c'est marrant cette question parce que oui, j'ai fait plein de rêves bizarres. Je suis incapable de m'en souvenir d'un seul, mais c'est vrai, j'entendais l'autre jour à la radio qu'on fait tous apparemment, statistiquement, plus de rêves bizarres liés d'ailleurs au confinement. On rêve plus qu'avant, ou en tout cas on se souvient de ses rêves. Alors là, moi, à l'heure où je vous parle, je m'en souviens pas, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de rêves assez étranges ces derniers temps. C'est vrai, c'est une période propice aux rêves, à l'onirisme.
Vous pensez consulter quelqu'un à la sortie ou ?
Alors, oui, je ne vous cache pas, Frédéric, que je pense que effectivement cette période m'a permis cette période d'introspection m'a guidé, et ma compagne m'a guidé aussi, m'a dit tu devrais peut-être voir quelqu'un un petit peu pour faire le point avec toi-même. Peut-être effectivement qu'à la sortie du confinement, j'ai essayé de trouver un psy, effectivement, oui.
Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Si nécessaire, je vous donnerai des numéros. Merci.
Ah, vous avez
dit faux. Oui. Merci, Mathieu, et bon retour.
Merci. Très vite dans les couleurs d'Europe, hein, alors, Frédéric.
On écoute à présent Bob le Manager. C'est une web-série humoristique sur le management au départ, mais c'est aussi ça.
Salut, c'est Bob le Manager. Aujourd'hui, je veux partager... Putain, quel kiff, c'est le bonheur. Un jour, on sera déconfiné. Et ouais. Merci à tous les infirmiers, les docteurs et les postiers, les éboueurs, les policiers, les professeurs et les pompiers. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est certain, on y arrivera. Tous les con-con-con-confinés, le corona, on va le virer. Tous les con-con-con-confinés, tous ensemble, on va gagner. Ouais, on va gagner. Fini le clapping de 20h, mais les voisins, c'est le bonheur. On se prendra un apéro, ça sera chez moi, c'est pas trop tôt. Merci aux petits gars de l'armée, aux agents de caisse et aux pompiers, aux aides-soignants, aux égouttiers, aux livreurs et à tous ceux qui ont bossé. Bientôt on va pouvoir chanter. Tous les con-con-con-confinés, le corona, on va le virer. Tous les con-con-con-confinés, tous ensemble, on va gagner. Ouais, on va gagner. C'est bon ça. On va revenir à la normale après cette période pas banale. Même moi je vais m'améliorer, plus humaniste et moins stressé. Merci à vous tous les routiers, sans vous on pourrait pas bouffer. Merci à nos agriculteurs, vos produits c'est un bonheur. Et
confinés.
Merci à tous les confinés. Pas facile tous les jours, mais bientôt on va chanter tous ensemble. Hey!
Tous les confinés. Le corona, on l'a viré. Tous les confinés.
Tous ensemble, on a gagné.
Ouais, ça y est, on a gagné, c'est bon ça.
Bon, c'est pas vrai, on n'a pas encore gagné. Mais on sera bientôt tous des confinés. Mais pour l'instant, relax, pousse-toi dans ton canapé, détente.
C'était la disco du déconfinement par Bob, le manager. Allô, Mélanie Gomez ?
Oui, c'est moi, bonjour.
Bonjour, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Vous avez animé sans rendez-vous tous les jours de 15h à 16h de chez vous. Comment s'est passé ce confinement à titre personnel, j'entends ?
Alors, à titre personnel, bien, je pense comme beaucoup de monde. Hein, je suis confinée chez moi avec mon époux, qui est restaurateur, et donc lui a resté depuis très longtemps déjà, même un petit peu quelques jours avant nous. Et puis mes deux enfants de 2 et 10 ans, donc on a vécu ça en famille, en télétravail pour moi de mon côté, avec une organisation presque militaire, mais souvent plutôt fofolle hein, quand même. Et puis, on a surtout eu la chance, et c'est ça, je pense, qui a sauvé notre confinement. On vit dans un appartement, on a eu la chance de récupérer un petit bout de terre. Une gentille dame de notre immeuble, qui a 88 ans, nous a donné l'usufruit, on va dire, de son potager. Et donc, ça a quand même bien, bien sauvé notre confinement.
Oui, et les enfants ne hurlez pas pendant votre émission, votre mari ne frappait pas à la porte.
Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que mon émission, comme vous le savez, elle est à 15h et qu'on a décalé un petit peu lors de la sieste de la petite dernière. Donc elle dormait pendant l'émission, ce qui est quand même assez pratique. Moi, le plus grand, il s'occupe, il a 10 ans, il a lu. Et donc non, j'ai eu beaucoup de chance pendant les directs. En tout cas, ça a été bien géré. J'ai d'autres directs dans la journée, je fais des interventions toutes les heures pour répondre aux questions des auditeurs. Là, c'était parfois un peu plus folklore. Je pense qu'ils ont dû entendre 2-3 fois, surtout l'heure du midi, « J'ai faim, maman !» derrière la porte, mais ça va. Je pense que de toute façon, les auditeurs ont été très compréhensifs et le sont toujours.
C'est vrai que ces enfants, il fallait les nourrir. Vous avez fait vos courses régulièrement, toute seule, à deux?
Très raisonnablement, il n'y a que moi qui suis sortie pendant tout le confinement. Les trois autres sont restés confinés non-stop quasiment, à part ce petit jardin qu'on a dans notre copropriété. Je suis sortie tous les samedis, une fois par semaine, masquée pour faire les courses. Et effectivement, on remplit bien le frigo qui est en train de nous lâcher en plus. Alors ça, c'est la grosse inquiétude. On se demande si les magasins vont rouvrir pour pouvoir acheter un frigo, parce que c'est quand même la petite, tuile du confinement. Ça, un frigo à 10 degrés, c'est pas terrible. Hein.
Vous avez hâte de retourner chez le coiffeur, d'acheter des vêtements
Alors ça, vous voyez, pas tellement. Bon, le coiffeur, je m'en suis toujours un peu fichu, donc ça, c'est pas un souci. Mais s'il y a une chose un enseignement, en tout cas, que je tirerais de ce confinement, c'est peut-être que, enfin, j'espère, en tout cas, chez moi, et puis chez les autres aussi, qu'on va peut-être consommer un peu différemment. C'est vrai que j'ai vraiment rien acheté à part de la nourriture, finalement, depuis 8 semaines. Et je me rends compte qu'on fait déjà des économies, c'est très bien. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu comme une addiction, en fait. Vous savez, j'en ai parlé déjà sur Antenne d'Europe 1. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 6 mois. Et comme pour une addiction, souvent, quand on a envie d'une cigarette, quand on arrête, on se demande à chaque cigarette, est-ce que j'en ai vraiment besoin quand on est en train de se sevrer? Ben là, peut-être qu'avant d'acheter de nouveau du maquillage, des vêtements, je vais me demander à chaque fois si j'en ai vraiment besoin, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses totalement futiles qui servent à rien, en fait. Et je crois que les vêtements, les jouets en trop, alors qu'on en a déjà plein, j'espère qu'on va voir un peu différemment notre façon de consommer dans la famille Gomez, en tout cas.
Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus drôle pendant ces 2 mois?
De plus drôle. Il y a eu des moments drôles. Ah oui, alors c'est peut-être pas drôle, mais je dirais que il y a eu de la solidarité aussi, j'ai trouvé. Alors pas bizarrement, j'en ai eu un peu dans ma famille, évidemment, mais ce qui a été le plus compliqué à gérer, je trouve, ça a été l'école à la maison, hein, du grand qui est en CM2. Je pensais qu'on n'était pas des imbéciles, mais honnêtement, les professeurs, je pense, font un travail extraordinaire et j'ai vraiment hâte de pouvoir leur confier à nouveau mes enfants. Mais surtout, j'ai eu finalement une vieille amie qui a repris contact avec moi pendant le confinement, une ancienne collègue, et qui m'a proposé très gentiment, je ne m'y attendais pas, de prendre un peu le relais sur l'école à la maison, à distance, par Skype avec mon fils. Et donc tous les jeudis matin, c'est elle qui s'occupait de l'école à la maison. Et je vous avoue que c'est un peu le seul jour, le jeudi matin, où on attendait notre fils faire l'école en rigolant. Parce qu'avec papa et maman, c'est moins drôle apparemment. Et ça, j'ai été étonnée. Je me suis dit finalement, l'aide, elle ne vient pas toujours de là où on l'attend le plus, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu la surprise du confinement, la solidarité là où on ne l'attend pas toujours, en fait.
Est-ce que vous avez découvert quelque chose sur vous-même ou sur le genre humain d'ailleurs?
Je vous ai parlé de la consommation, ça c'est sûr. Moi, ce que j'ai découvert sur moi, c'est toujours en rapport à ce petit potager dont je vous parle. J'avais oublié que je savais jardiner, en fait. Moi, je viens du sud de la France. Je vivais à la campagne quand j'étais petite et je jardinais toujours avec mon père. J'ai toujours biné, arraché les mauvaises herbes, poussé la brouette, etc. Et puis, les années passant, mon arrivée à Paris, le travail de journaliste, c'est vrai que j'avais lâché la terre et j'avais oublié que je savais mettre les mains dans la terre. Et je me suis rendu compte, finalement, que je me rappelais de tous ces gestes qui sont revenus un peu naturellement. Et je trouve ça très, très gratifiant de voir pousser les graines qu'on a plantées. Chaque jour, il y a des changements. Et ça a été la bonne surprise aussi du confinement. Je me suis retrouvée. Alors, je n'ai pas une nouvelle vocation de jardinière. Hein, c'est pas le cas. Mais en tout cas, ce plaisir vraiment de mettre les mains dans la terre. Et à ce moment-là, on ne passe plus à rien d'autre, en fait. Et ça, c'est très bien, très agréable.
Mais en 2 mois, vous avez eu le temps de récolter le fruit de vos...
Alors, pas encore, mais je vais vous dire, c'est assez fou, parce que vraiment, on les observe tous les jours. Hein. Tous les jours, ça change dans le potager, dans le jardin. On a même des semis partout dans la salle de bain, parce que c'est chaud dans la salle de bain, ça pousse très bien les semis, je ne savais pas. Et j'ai des concombres, quand je prends ma douche, j'ai des concombres, des radis à côté de moi qui sont en train de pousser. Là, on a les petits pois qui poussent à une vitesse folle. Je ne savais même pas que ça pouvait pousser aussi vite. Hein. On a vu parfois 1 centimètre par nuit, donc on les observe très attentivement. On n'a pas de récolte encore. Je pense que les fraises ne vont pas tarder quand même.
Merci Mélanie. J'ai hâte de vous revoir ici, en chair et en os.
Avec plaisir, moi aussi. Bon courage pour la suite. Merci.
Coronavirus, microbe Django la dunit, aduna nek ci combat dougis, kumi xexal nirona grippe, nagn éviter contact physique. Xadul gan yo koloban pikine, tax bañu annuler programme yisiw, tax bañu fogné adunaay tukki. Médecin sonna chili, amul vaccin ordonnance tamit.
On se retrouve juste après les infos. J'appellerai Isabelle Morizet, Olivier Delacroix, Laurent Mariotte et Lionel Rousseau.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Ho un corona, ma non sono un virus. 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 Ho un corona che mi incorona in quarantena. Qual è il problema? Nessun dilemma. Se la gente è scema, davanti agli occhi poi si dimena.
Isabelle Morizet interviewe des personnalités dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, le samedi et le dimanche de 15h à 16h. On l'appelle tout de suite. Allô, Isabelle Morizet ?
Frédéric.
Comment allez-vous ?
Ah, je vais comme quelqu'un en fait qui est en apnée, voilà, dans le fameux compte à rebours officiel. Moi, j'ai passé ces 2 mois dans une solitude absolue parce que ma famille vit aux États-Unis, ma maman, mon fils, ma sœur qui est américaine, et comme mon mari lui a travaillé donc à Canal pour les émissions En clair, l'info du vrai, tous les jours il partait tôt le matin et rentrait très tard le soir, et donc moi, j'avais devant moi des journées d'une béance vertigineuse. Et je vous avoue, non mais sincèrement Frédéric, lorsque le ton est élastique, quand on est dans le flou, c'est assez difficile d'abord d'être actif, d'être créatif. Et surtout, ça m'a fait revenir à, on va dire, à ma nature première, c'est-à-dire celle d'une rêveuse, d'une contemplative. Je suis devenue la reine de la procrastination. Tout ce que j'avais prévu de faire... face, vous savez, à ce vertige de chaque journée qui était comme une petite éternité, et bien tout ça s'était pulvérisé. Alors, bon, je veux dire que j'ai quand même vraiment la chance d'avoir un petit bout de jardin très, très poétique et jardiner, m'occuper du vivant comme ça, avec une espèce d'émotion émerveillée. Voilà, ça a été caressant pour moi.
Est-ce que vous avez eu une révélation au cours de ces 2 mois de confinement ?
Ah, alors Frédéric, vraiment, ce qui m'a frappé, c'est la peur de certaines personnes qui semblent découvrir en fait que le projet de départ, ce n'est pas d'être éternel, n'est-ce pas ? Chaque vie est accompagnée de sa propre finitude. Mais là, soudain, découvrir la mort, vous savez, dans ces sociétés modernes qui font tout pour tout masquer, tout aseptiser, comme si la mort devenait un concept virtuel. Non, on savait effectivement l'intégrer dans le passé. Mais là, j'étais frappée par le fait que, voilà, on semble soudain seulement réaliser que chaque vie est accompagnée de sa propre finitude. Et je pense qu'il va y avoir vraiment à méditer là-dessus. Les anciens, les Africains le savaient. Et nous, on veut que, en fait, on veut vivre dans une espèce de bonheur sécurisé, éternel. Mais c'est pas ça, la vie.
Et au fond, on a du mal à accepter qu'il y ait des morts, comme si, hors de cette période, il n'y en avait pas eu.
Exactement. C'est ça. Parce que pendant ce temps-là, le cancer, hélas, continue de tuer, toutes les maladies cardiovasculaires, on peut toujours voilà, rendre l'âme en traversant la rue, et on ne se préoccupe que du Covid-19. Alors, bien sûr, il faut mettre tout en place pour ça, mais, en fait, la vie est une histoire qui se termine mal. Et on semble le découvrir seulement maintenant. C'est bizarre dans cette société actuelle, tellement occupée à vouloir organiser notre bonheur voilà, d'une manière complètement artificielle. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du végétal et du vivant et de la nature qui nous enseigne beaucoup de choses en ce moment.
En même temps, pour la première fois peut-être, un nombre considérable d'États, de gouvernements ont choisi de sacrifier leur économie pour sauver des vies, justement. Alors au fond, c'est une tendance générale aujourd'hui. La vie, la vie, la vie.
C'est ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Alors il ne faut pas oublier, ne soyons pas innocents, qu'il y a plein de guerres qui continuent de se poursuivre d'une manière absolument catastrophique et ravageuse partout sur la planète. Mais il semblerait que, oui, ce consensus-là est prometteur. Pour la première fois, les dirigeants sur l'ensemble de la planète se disent « Attention, d'abord, la santé, la sécurité en premier. Bon, que va-t-il en rester ? Je ne sais pas. Mais effectivement, ça, c'est historique. »
À bientôt.
À très vite, Frédéric.
Chérie Gogo, en dit minimum 1 mètre. Oublie ton lande de coiffure. Respectons mes yeux et gestes barrières pour que le virus soit éradiqué. Les vieux mogos sous l'âme courent après. Bah, y a beaucoup de gel alcoolisé. On peut pas faire un jour sans toucher le visage. Faut prier Dieu pour laver ta main. Y a une coude derrière là-bas où y a Nîmes. Voilà, il reste pas feuille dessus. Y a fumé mon bédo, y a bois mon bissap. Mon corps est rempli de chloroquine. Garçon du 21-06. Voilà le couplet qui sauve des vies.
Et maintenant, j'appelle Olivier Delacroix qui a présenté La Libre Antenne le soir de 22h30 à 1h en venant sur place à Europe 1. Allô Olivier ?
Oui.
Comment allez-vous ?
Bonjour Frédéric, ça va et vous ?
Ça va bien. Alors vous veniez à Europe 1 pour présenter votre émission, mais ensuite vous retourniez chez vous. Vous deviez voir oui. Les rues vides, les vitrines. Voilà, vous avez vu cette nuit parisienne très particulière hein, pendant 2 mois.
Très particulière. C'est vrai que ce trajet restera dans ma mémoire parce qu'en fait, c'est vrai que le soir, quand je pars aux alentours de 20h30, 21h de chez moi, Paris était totalement vide. C'est vrai que c'était très surprenant de traverser Paris comme ça, sans une voiture, sans un bruit. Ça restera un de mes souvenirs, un des souvenirs marquants de cette période, parce que Paris va redevenir, à mon avis, un peu plus bruyant dans les semaines qui viennent.
Quel aura été votre meilleur souvenir pendant toute cette période ?
J'ai pas vraiment de meilleur souvenir globalement. Je dirais plutôt que c'est ce temps, ces 2 mois, presque 2 mois, hein, qui se sont écoulés avec plus au début une appréhension. On m'aurait dit en fait que j'allais être confiné pendant 2 mois comme ça avant cette annonce. J'aurais sans doute répondu que j'étais strictement incapable de rester confiné, de respecter les règles, d'être un bon petit citoyen. Et j'aurais vraiment angoissé. Et finalement, j'ai profité du temps, j'ai profité des miens. Ça aussi, c'est aussi vivre en famille, en couple. On peut penser que ce confinement a pu être une épreuve pour certains. Il a été une épreuve pour certains. Pour moi, ça ne l'a pas été. Pour nous, ça ne l'a pas été. Ça a été vraiment un moment. Bon, on y est toujours. Hein, je parle comme si c'était fini. Mais
Oui, bon, enfin, c'est fini demain. Maintenant que vous avez de l'expérience, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se confinerait chez lui pour la première fois ? Parce qu'on a beaucoup paniqué sur le papier hygiénique au début. Bon, finalement, on n'en a jamais manqué. On a appris au fur et à mesure.
Hein. On a appris. Moi, en fait, ce qui ressort de tout ça quand même, c'est que on a paniqué, comme vous dites. Il y a des gens qui se sont précipités dans les magasins. Mais on a pu voir quand même que notre société était quand même assez bien organisée. Et surtout avec des corps de métier qu'on ne voit pas en fait dans la vie de tous les jours et qui finalement nous ont permis de vivre ce confinement avec un certain confort. Hein. Je pense aux gens qui nettoient, enfin qui ramassent les poubelles, ceux qui sont à la caisse des supermarchés, enfin tous ces métiers, vous voyez, qui font que les camionneurs, les transporteurs, qui ont fait que tout de même, on a eu cette chance de pouvoir continuer à sortir, pouvoir faire des courses sans obligatoirement justement dévaliser les rayons de pâtes. Bon, mais ça, on aura toujours ça. Hein. Je pense qu'il y a toujours des gens qui vivront de cette manière. Moi, ce qui ressort de tout ça, c'est que quand même, il y a tout un tas de métiers qui sont mis en valeur aujourd'hui. Et je trouve que ça dit quelque chose de notre société, en fait. Et j'espère que ça dira quelque chose de notre société après le confinement et que tous ces gens qu'on ne voyait pas obligatoirement avant, on va maintenant les voir et peut-être, je ne sais pas, leur porter plus d'attention.
Après les attentats du 11 septembre à New York, ce sont les pompiers puis les policiers qui ont été l'objet d'une véritable vénération, un peu comme aujourd'hui on porte à nos soignants, aux caissières des supermarchés, tous ceux que vous avez dit. Il y a aussi les ouvriers qui déblayaient les ruines du World Trade Center, mais ça n'a pas duré hein, tellement. J'espère que ça durera plus longtemps.
Non, ça n'a pas duré. Et on l'évoque souvent dans la Libre Antenne le soir. Il y a un espoir qui est souvent émis de la part de nos auditeurs le soir. Mais il est certain que quand on pense à la nature humaine, on peut émettre quelques doutes sur le fait qu'il y aura un avant et un après.
Ouais, elle s'habitue à tout, mais elle oublie vite.
Oui. Et je voulais que je vous dise particulièrement en France, en plus.
Vous croyez ?
Ah, je pense, oui. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, hein, mais on oublie vite en France. Bon, donc, voilà, certains en tirent un certain bénéfice, mais écoutez, espérons en tout cas qu'on aura la mémoire un peu moins courte que d'habitude.
Merci Olivier, et j'espère vous croiser rapidement dans les locaux d'Europe 1.
Oui, complètement, à bientôt Frédéric.
Il y a aussi des chansons qui parlaient du déconfinement sans le savoir, comme celle-ci.
J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ces vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime le vent qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener par les rues qui fourmillent, tout en draguant les filles. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, en juin aussi d'ailleurs, avec ses bouquinistes et tous ses aquarellistes, que le printemps a ramené comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai.
pas dire que j'aime pas Lyon ou Marseille. La Seine qui l'arrose et mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire des millions de lumières. Il me plaît à me promener contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine.
C'était Charles Aznavour, J'aime Paris au mois de mai.
Estoy amarillo.
Allô, Laurent Mariotte.
Bonjour Frédéric.
Bonjour, vous avez animé tous les samedis de 11h à 12h30 la table des bons vivants, l'émission culinaire d'Europe 1. Vous étiez dans nos studios. Hein.
Oui, oui, absolument. C'était encore mon lien avec l'activité professionnelle. Une fois par semaine, je venais à Europe 1 et mes camarades chroniqueurs à distance. Ouais.
Pendant cette période de confinement, vous avez dû faire beaucoup vos courses.
Oui, absolument. J'ai fait beaucoup, mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait en sorte de ne pas trop sortir pour les faire. Donc, j'ai fait des grosses courses à chaque fois. Mais pour être tout à fait franc, il fallait quand même que je sorte deux fois par semaine faire mes courses parce que j'aime bien avoir des produits de saison, des produits frais. Donc, voilà, je m'autorisais mes deux sorties hebdomadaires pour aller faire mes courses. Ouais.
Le plus intéressant quand on faisait ses courses pendant cette période, c'était souvent la queue qui était longue. Il fallait attendre avant de pouvoir entrer dans le magasin. Vous en avez gardé de bons souvenirs ?
Bah ouais, alors déjà, quand en normal, je déteste faire la queue. Je suis de nature impatiente, pour vous dire la vérité. Donc là, quand je voyais des grandes queues devant les magasins, je passais mon tour et je partais. Non, j'ai réussi à faire des contre-courants d'horaire, si vous voulez. Et j'ai la chance d'avoir une boutique en bas de chez moi, en fait, qui travaille avec des petits producteurs locaux de toute la France. Ils ont un rayon maraîcher, une poissonnerie, une boucherie, du pain. Donc, je faisais la queue pour chaque échoppe, si vous voulez, mais c'était vivable comme attente.
Il y a des choses que vous avez faites pour la première fois de votre vie pendant le confinement ?
Oui, il y en a quelques. Ben, pour vous dire, je vais être tout à fait franc, j'ai voulu faire un gâteau au chocolat. Alors, j'ai toujours des tablettes de chocolat spéciales. Hein. On sait que c'est du chocolat pâtissé qu'il faut pour le gâteau au chocolat. Et là, j'ai eu la flemme de descendre. Je ne voulais pas descendre faire mes courses pour ne pas faire un déplacement pour rien. Donc, j'ai pris les tablettes que ma chérie mange à la maison, qui sont des tablettes chocolat à l'orange et chocolat aux amandes, d'une marque qu'on connaît, mais franchement, à croquer, c'est très bon, mais à cuisiner, c'est dégueulasse. Donc, je me suis complètement raté. Il ne fallait pas du tout faire ce gâteau au chocolat avec ces tablettes. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai cuisiné beaucoup, évidemment, les restes, et je me suis amusé énormément à utiliser les produits, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. La queue des asperges pour faire un velouté, pour parfumer un bouillon pour le risotto, les fans de radis retombés comme des épinards pour accompagner des œufs brouillés. Enfin, j'avais une espèce de jouissance de l'autosuffisance, voilà.
Mais est-ce que l'art d'accommoder les restes, est-ce que ça n'est pas au fond la base même de la cuisine, ce qu'on a appelé pendant longtemps les plats de pauvres? C'est généralement les meilleurs plats de toutes les cuisines régionales.
Mais vous avez raison, c'est surtout à ça qu'on reconnaît des gens qui savent vraiment cuisiner, quoi, parce qu'avec les fonds de frigo et de placard et ce qui reste du repas de la veille, on peut faire de belles recettes, quoi. Avec un reste de riz, vous allez faire des arancini. Enfin, c'est vraiment, je pense que la vertu de ce confinement, elle était là, c'est de remettre les gens au pied du mur d'une cuisine du quotidien, mais simple, pas un truc sophistiqué qui met la pression et la barre haute. Non, une cuisine du quotidien, accessible à tous et bon marché, pour le coup.
Vous imaginiez, Laurent Mariotte, que vous vivriez un jour dans un monde où il n'y aurait plus de restaurant ?
Ah non, franchement, ça, c'est dur. Hein. Je vous assure que je suis content que ça se termine, là, comme tout le monde, parce qu'on en a marre de ce côté cloisonné, mais c'est encore long d'attendre la réouverture des restaurants, et je pense à tous les chefs cuisiniers qui sont quand même dans une galère
très très compliqué, quoi, même s'il s'improvise à livrer à domicile. Mais je pensais pas du tout qu'un jour on verrait plus de bistrot. Moi, j'habite dans le centre de Paris, c'est très animé, il y a plein de cafés, plein de terrasses, tout est fermé, quoi. Paris est magnifique, mais Paris est triste, quoi. Donc c'est vrai que j'imaginais pas ça, non.
Merci Laurent d'avoir donné des nouvelles de chez vous, et évidemment à la semaine prochaine,
hein. Eh ben absolument, Frédéric, merci. À la même heure, on partage la même heure le week-end. Donc.
Exactement.
Vous ferez de guibag.
Vous le samedi, moi le dimanche.
Exactement. Merci du coup de fil.
Et maintenant, Lionel Rosso, c'est Europe 1 Sport, les samedis et dimanches de 20h à 23h, le rendez-vous des amoureux du football. Allô Lionel ?
Bonjour Frédéric.
Comment survivez-vous dans un monde sans football, sans match, sans résultats sportifs ?
Totalement en apnée, dans l'attente de la nouvelle saison. On retient notre respiration depuis le début du confinement, surtout que la saison, notamment de Ligue 1 de football professionnel, comme vous le savez, a été arrêtée. Le Premier ministre a été assez direct en disant qu'il n'y aurait pas de saison, de fin de saison, en tout cas de championnat. Donc c'est un coup dur, mais malgré tout, on continue déjà à faire des émissions, mais à vivre au rythme du foot avec les discussions, les négociations autour d'une éventuelle reprise, dans des conditions sanitaires dignes et correctes, évidemment, et puis les reprises de championnats à l'étranger, et puis notre reprise à nous, très vraisemblablement fin août pour une nouvelle saison.
Mais Lionel, vous, à titre personnel, est-ce que vous imaginez un jour vivre dans un monde où l'équipe, fameux quotidien sportif, ne pourrait plus nous donner des résultats, où le championnat serait interrompu, tous les championnats, sauf le championnat biélorusse, je crois, qui continue d'avoir lieu. Vous êtes branché dessus, comme on écouterait Radio Londres ?
Très difficilement, parce que le championnat biélorusse n'est pas très intéressant, à part le club de Paté Borisov. Ça vous dit quelque chose, non. Peut-être qu'elle joue en Coupe d'Europe, voilà, ça dit pas grand-chose à pas grand monde.
Il y a le championnat du Nicaragua aussi, je crois, qui se maintient.
Oui, passionnant, là, c'est le derby au Nicaragua, ça doit être passionnant. Non, écoutez, parfois, je compulse un peu les archives du quotidien L'Équipe, effectivement, et avec, je verse une larme en regardant les résultats et les classements des journées, des saisons passées.
C'est ça.
Je regarde aussi, ça c'est plutôt une bonne idée, de temps en temps, les chaînes de télévision qui rediffusent des matchs d'anthologie d'il y a 20, 30 ans, ou même de la saison dernière, et c'est pas inintéressant d'avoir du recul dans la situation qu'on traverse aujourd'hui.
Vous-même, vous faites du sport, c'est une question que je me pose toujours à propos des journalistes sportifs, est-ce qu'ils font du sport ?
J'en fais en général, alors quand il n'y a pas de confinement et quand on est dans une saison ou dans une vie normale, je pratique le sport, j'en fais régulièrement. En tout cas, j'essaye d'en faire le plus sérieusement et le plus régulièrement possible. Le confinement m'a aidé à en faire tous les jours, là pour le coup, je me suis vraiment discipliné, j'ai pris cette décision de faire du sport tous les jours à la maison, véritablement, donc pas de sport extérieur. En général, je fais du sport collectif ou des sports de combat, donc là c'est totalement impossible à la maison. Donc je m'amuse soit à sauter à la corde et j'essaye de ressembler à tes grands boxeurs qui sautent à la corde, c'est très esthétique, mais je vous rassure tout de suite, je n'y suis pas parvenu, je n'y suis pas arrivé, même si j'ai un peu progressé. Et puis je me suis replongé aussi dans mes passions d'adolescence et les films de Bruce Lee notamment. J'ai retrouvé un vieux nunchaku dans mon placard et je me suis remis au nunchaku. Voilà, c'est pas terrible, mais ça m'occupe.
Oui, mais ça a eu son heure de gloire, et le nunchaku et Bruce Lee, hein, bien entendu. Est-ce que les stades vous manquent ? En tant que spectateur, j'entends.
Oui, bien sûr, les stades manquent, et je me dis que quand il va y avoir des reprises, que ce soit en Allemagne dans les prochains jours ou en France dans quelques semaines ou quelques mois, les stades déjà seront vides, les enceintes seront vides puisque les matchs se dérouleront à huis clos, donc ça c'est vraiment un problème. Et dans les entretiens qu'on peut avoir avec les sportifs, quels qu'ils soient, les footballeurs ou les autres, faire une compétition, jouer, pratiquer leur sport, leur discipline, leur passion dans un stade vide, il y a un vrai décalage et il y a quelque chose de très frustrant. Et me concernant, en effet, même si je vais un petit peu moins sur les stades en ce moment, puisque je suis plus souvent en studio, les stades me manquent, en tout cas les ambiances, les bruits de stade me manquent. Ces applaudissements, ces cris, les chansons de supporters. Et dans notre émission Europe 1 Sport, il nous arrive parfois de repasser quelques extraits.
Les injures aussi, parfois.
Ça fait partie du décorum. Vous savez, les supporters ont beaucoup d'humour, et c'est presque la théorie des climats, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de la région où on se trouve, il y a des chants, des injures bien particulières, et ils sont assez inventifs, hein. quand même les supporters.
Je suis bien d'accord avec vous, il y a parfois des banderoles très très drôles.
Oui,
certes, injurieuses, mais parfois
exactement.
Très drôles.
Voilà, ça fait rire. Moi, quand j'étais enfant, quand j'allais au stade, j'entendais des choses que je ne répéterai pas sur cette antenne, bien sûr, mais qui me faisaient pouffer de rire parce que je me disais, mais comment il a pu trouver ça? Comment cette injure-là, il a pu la sortir à ce moment-là? Il y a un côté cocasse qui est intéressant et effectivement qui nous manque encore aujourd'hui.
Merci Lionel de nous avoir donné des nouvelles et bon retour en studio à Europe 1 alors.
Merci beaucoup Frédéric, avec plaisir, on sera là, évidemment.
Voilà, cette émission est terminée. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon déconfinement. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade, mais en extérieur.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.